France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons dans le grand entretien ce matin une figure de l'écologie politique en France et en Allemagne, longtemps eurodéputée vert. Vos questions 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Bonjour Daniel Cohn-Bendit.
Bonjour Monsieur Demorand, je suis très bien Radio Nostalgie Socialisme.
Ah, c'est comme ça que vous, nous appelez maintenant Radio Nostalgie Socialiste.
C'est le bon vieux temps ici, je suis toujours
Vous préférez quoi alors comme autre?
Radio
Courtoisie écologiste. Qu'est-ce que vous aimez
Radio Nostalgie Socialisme. Je préfère, moi je suis très bien ici.
Et c'est pour ça qu'on vous invite, c'est ça? Pour que vous puissiez parler de ce que vous étiez et n'êtes plus.
Voilà, exactement.
Bon, en tout cas, c'est cette semaine que l'Allemagne s'apprête à célébrer les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Jean-Luc Mélenchon a commenté sur Twitter la une du Monde diplomatique. Allemagne de l'Est, c'était ça la manchette. Allemagne de l'Est, histoire d'une annexion, en disant du mot annexion, enfin le mot juste pour qualifier ce qui s'est passé il y a 30 ans, une violence qui n'en finit plus de se payer. Jean-Luc Mélenchon a-t-il, selon vous, Daniel Cohn-Bendit, forcément tort de pointer cet aspect ou cette lecture-là de ce que fut il y a 30 ans la réunification allemande ?
Ce que fut il y a 30 ans la réunification, c'est un mouvement extraordinaire en Allemagne de l'Est pour abattre une dictature. C'est ça ce qui s'est passé. C'est-à-dire la chute du mur. Et moi, j'ai pleuré. C'est en même, quand les murs tombent, que ça soit les murs de la dictature au Portugal, que ça soit les murs de la dictature en Espagne, que ça soit les murs au Chili, quand les murs tombent, les dictatures tombent, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce mouvement non-violent, extraordinaire, de millions de citoyens d'Allemagne de l'Est qui ont fait tomber le mur, ce n'était pas une annexion, c'est une bêtise incroyable. C'est encore une fois une bêtise. On peut discuter après.
Mais c'est ça, il y a eu des débats, passionnants et vifs sur comment faire la réunification. Fallait-il le faire par le haut ou par le bas? Fallait-il le faire par la monnaie ou différemment?
Les Verts allemands, par exemple, qui est le seul pays parti politique qui s'est réunifié en prenant une partie de ceux qui ont fait la révolution à l'Est et l'Ouest demandaient, par exemple, une nouvelle constitution. Voilà. Oui, il y a eu un débat. Le débat, il a été tranché par le vote des gens en Allemagne de l'Est. Ils ont voté à majorité CDU. J'y peux rien, la démocratie. On va pas quand même dire qu'une annexion, c'est-à-dire qu'on leur a implanté, je sais pas, du botox capitalisme dans la tête pour qu'ils votent aux premières et aux deuxièmes élections en Allemagne de l'Est pour la CDU. C'était pas mon choix. Moi, j'aurais voulu qu'ils votent pour les Verts. Mais enfin, qu'on arrête ces bêtises. Et après, que le capitalisme allemand, que les Allemands ont fait des erreurs en Allemagne de l'Est, comme ils ont fait des erreurs en Allemagne de l'Ouest, c'est évident. Mais de dire annexion, c'est aujourd'hui encore, c'est reprendre Radio Nostalgie Allemagne de l'Est. C'est reprendre ce que dit l'AfD en Allemagne de l'Est, c'est-à-dire l'extrême droite.
Justement, sur l'AfD, si le terme d'annexion vous semble impropre, les conséquences...
C'est pas propre, il est con.
C'est votre position, celle de Jean-Luc Mélenchon. Les conséquences de la réunification ne sont-elles pas perceptibles 30 ans après avec les scores que fait l'AfD aujourd'hui?
L'AfD,
c'est-à-dire le parti d'extrême droite.
Le parti d'extrême droite. Où vous prenez la Hongrie, où vous prenez la Pologne, où vous prenez tous ces pays. Il y avait un système totalitaire qui était un frigidaire. La glace a fondu. Il y a des mouvances qui sont ressuscités en Allemagne sur une nostalgie autoritaire. Oui, il y a une nostalgie autoritaire en Allemagne de l'Est. Cette nostalgie autoritaire qui parle du bon vieux temps où l'État, justement, interdisait des tas de choses. L'AfD fait son beurre sur l'émigration. Sur l'émigration en Allemagne. Il n'y a pas d'émigrés en Allemagne de l'Est. Il y en a 3%. Et c'est là où elle est le plus fort. Donc je veux dire qu'il y a une nostalgie d'un État autoritaire qui visiblement plaît à Mélenchon.
Donc il y a des ratés aussi dans la démocratie libérale qu'a impulsé l'Allemagne.
C'est un scoop.
Non mais bon.
C'est un scoop.
Ce que je veux dire c'est que c'est pas.
Essayez
d'expliquer aussi pourquoi est-ce qu'il y a cette nostalgie de pourquoi est-ce qu'ils ont voté longtemps communiste et maintenant ils votent extrême droite.
Parce qu'il y a des racistes. Parce qu'il y a des racistes, parce qu'il y a des antisémites.
Oui, mais c'est un peu court de dire ça, non?
Non, mais c'est pas court, c'est d'abord une réalité. c'est une réalité. Et le fait qu'il y a le double de racistes et d'antisémites dans l'ex-Allemagne de l'Est, en Hongrie ou en Pologne, ça a à voir aussi avec l'histoire du communisme. Ça a à voir aussi avec ce que le communiste a perpétué et donc ce qui est resté dans certaines sectes, dans certaines familles. Oui, il y a eu des destructions de familles. Oui, il y a eu d'énormes problèmes dans la reconstruction et des ratés. Évidemment qu'il y a eu des ratés. Mais ces ratés-là, si vous voulez, ce qui est intéressant en Allemagne de l'Est, c'est vous avez par exemple Die Linke, qui est la gauche, qui était le parti frère de Mélenchon. Eh bien, en Thuringe, aux dernières élections, celui qui a été élu, c'est un type qui est aujourd'hui un social-démocrate. Et justement, il y a ceci, une évolution de la gauche allemande qui est très rationnelle, qui fait une coalition avec les Verts, qui fait une coalition avec les sociaux-démocrates, qui est prêt à faire une coalition avec la démocratie chrétienne, c'est elle qu'il ne veut pas. Donc il y a une évolution positive et il y a un reste, un noyau dur, totalitaire, autoritaire, en Allemagne de l'Est.
Alors, on en vient maintenant à une autre date. On arrive à mi-mandat de la présidence d'Emmanuel Macron, élu il y a donc tout juste 2 ans et demi. Si on devait faire des bilans sur les thèmes qui vous sont chers à vous, Daniel Cohn-Bendit, comme l'écologie ou l'Europe, pour commencer, prenons l'Europe. Que diriez-vous sur l'Europe au-delà du discours de la Sorbonne en 2018? Où en est-on aujourd'hui du budget de la zone euro, des listes transnationales, de la taxe sur les transactions financières?
D'accord, allez, on y va. On y va,
où en est-on? Qu'a-t-il fait? Alors dites-nous,
on y va.
Sur les listes devez célébrer cet anniversaire.
Sur les listes transnationales, il les a proposées. C'est la CDU, c'est Weber qui, au Parlement européen, contre la voix des libéraux, des verts et des sociaux-démocrates, a fait échouer ce projet. Donc c'est un projet qui a échoué politiquement. Sur le budget de la zone euro, il a introduit le système, mais il est trop faible. Il est trop faible, donc on doit mieux faire. C'est effectivement, et ça va être pour si on veut un Green New Deal, si on veut une relance de l'écologie, il faut aller beaucoup plus loin, donc doit mieux faire.
Donc il a été empêché par les autres, c'est ça ce que vous dites?
Non, il a peut-être par son incapacité politique, il faut arrêter, je dis pas par les autres, mais le fait est que si vous avez un vote au Parlement européen contre les listes transnationales et que c'est le Parti populaire européen emmené par Manfred Weber qui vote contre, c'est lui qui l'a empêché, c'est pas Macron. Hein, si t'as pas la majorité dans un parlement, c'est pas la faute de ceux qui sont en minorité. Enfin, il faut arrêter de dire des conneries.
Sur les commissaires, bon, allez, en forme ce matin, c'est pour
Je dis simplement c'est la réalité du vote dans un parlement.
Dan Cohn-Bendit, après le fiasco de la nomination de Sylvie Goulard au poste de commissaire européen, retoqué par le Parlement européen, merci de m'aider. La France présente donc Thierry Breton, venu de l'industrie. Il dit avoir coupé tous ses liens avec sa précédente vie professionnelle, Thierry Breton, mais Yannick Jadot, d'autres, dénoncent déjà un possible conflit d'intérêts. Qu'en pensez-vous?
Moi, je sais pas. Hein. Il a coupé, comme il l'avait fait quand il est rentré au gouvernement en France, sur France Télécom, il avait coupé, il avait dit c'est le Premier ministre qui décide. Donc, il va devoir dire, il va dire, tout ce qui est, par exemple, lié à son entreprise précédente, eh bien, ça sera la présidente de la commission qui décidera, et pour cela. Moi, je crois que Thierry Breton a la formation pour le portefeuille qu'on lui propose, et puis maintenant on verra. Moi si vous voulez, j'étais pour Sylvie Goulard, et en même temps je trouve très bien que le Parlement européen joue son rôle, et que quand on voit toutes les élections européennes que les Mélenchon et non n'importe d'autres disent mais ce Parlement n'a aucun pouvoir, eh bien il a du pouvoir, le Parlement européen, au contraire du Parlement français, au contraire du Parlement allemand, qui, quand vous avez un nouveau gouvernement, vous voyez des nouveaux ministres qui ont une audition devant les parlementaires, des commissions parlementaires, et qui peuvent les retoquer. Vous voyez ça? Non. Eh bien moi, même si le Parlement pour moi s'est trompé, c'est bien pour le parlementarisme, c'est bien pour la démocratie.
Alors, autre question.
Moi je ne suis pas noir ou blanc, suis noir et blanc.
Alors sur l'ouverture des négociations d'adhésion à l'Union Européenne pour la Macédoine du Nord et l'Albanie, Emmanuel Macron a dit non. Ça a suscité un tollé au Parlement européen, Angela Merkel a dit sa déception, certains ont reproché à Emmanuel Macron une erreur historique. Qu'est-ce que vous pensez?
Je pense que moi j'étais 20 ans au Parlement européen. J'ai défendu l'élargissement, parce qu'on pouvait pas autrement. Et à chaque fois qu'on élargissait, on disait, mais il faut approfondir, il faut changer les règles. Il faut changer les règles de l'unanimité sur la politique étrangère, il faut changer les règles de l'unanimité sur la fiscalité. Sinon, on n'y arrivera pas. Et Macron vient de dire, eh bien maintenant, on le fait. on change les règles de l'unanimité sur la politique étrangère et sur la fiscalité, et la Macédoine et l'Albanie pourront rentrer. Il est temps aujourd'hui que le Parlement européen, que la Commission européenne, que les institutions européennes fassent leur devoir de réforme de l'Union européenne. Sinon, on en arrive à ce qui est arrivé, que la Hongrie a empêché une décision sur l'intervention turque en Syrie par une voix, parce que c'est l'unanimité. Tant que vous avez l'unanimité, la fiscalité, la réglementation, la régulation fiscale nécessaire, vous n'y arriverez pas.
N'engueulez pas les gens, ne nous engueulez pas trop.
Si j'engueule qu'à chaque fois qu'on parle de cela, on ne dit pas que la raison de Emmanuel Macron, c'était ça. Il n'a pas dit simplement non à la Macédoine, il a dit la Macédoine, l'Albanie, évidemment qu'ils ont une perspective pour l'Union européenne. La Bosnie, évidemment qu'elle doit avoir une perspective dans pas seulement la Serbie, etc. Mais si vous ne changez pas les règles de fonctionnement de l'Union européenne, on n'y arrivera plus. Parce que l'unanimité tue l'Union européenne.
L'intervention du président de la République sur la laïcité, l'islam, le communautarisme était attendue ou réclamée, Daniel Cohn-Bendit, depuis des jours et des semaines. Elle a finalement eu lieu dans les colonnes de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Sur la forme, est-ce que ça vous a surpris ?
Si j'aurais su, j'aurais pas fait. Mais il l'a fait. Bon.
Il savait.
Non, mais je dis pas qu'il est innocent. Je dis simplement, si vous me demandez, moi, je n'aurais pas lancé ce débat dans Valeurs Actuelles. Mais en même temps, si j'avais lancé ce débat à Radio Nostalgie Socialisme, tout le monde aurait dit, bon, d'accord, ils parlent pour les bien-pensants, etc., qui sont toujours du bon côté.
Vous faites de la caricature comme
non,
ça.
Non, mais...
Il y a quand même entre 4 et 5 millions d'auditeurs tous les matins.
Non, mais c'est
vous pensez
vrai.
Vraiment que c'est Radio Nostalgie Socialisme
non,
tous
mais
sont dans le, tous
marrant,
sont bien-pensants.
C'est marrant que vous êtes comme les politiques.
On peut pas
dès
penser
qu'on
contre
est
nous-mêmes.
un tout petit peu taquin, mais évidemment que France Inter, c'est beaucoup plus que ça. Mais c'est vrai
non,
que
mais
c'est...
vous avez le droit de préférer le Nouveau Monde, hein.
Mais
vous
moi,
avez fait
non,
vos choix.
Je préfère Radio Nostalgie Socialisme. C'est ça qui était. Je suis un nostalgique.
Alors,
moi aussi, j'aimais bien le bon vieux temps où les bons et les mauvais, on savait.
Alors,
de
où
temps
vous,
en temps,
où,
ils étaient.
Où vous le classez, Laurent Berger, dans les bons, les mauvais, les bien-pensants?
Les très bons.
Ben voilà, il a estimé que l'interview du président à Valeurs Actuelles était, je le cite, désastreuse. Dans le bazar dans lequel on est, il n'y a qu'une chose qui fait repère, c'est le socle des valeurs. Il faut être intransigeant, dit Laurent Berger. Quand on parle à Valeurs Actuelles, journal d'extrême droite, on entame cette intransigeance. Je suis abasourdi, dit-il.
Oui,
vous partagez son effarement par-delà la pirouette que vous avez...
Non, je le dis pas comme ça, mais je reste... Moi, je trouve que Laurent Berger est un très bon. Je trouve que Laurent Berger,
sur le fond,
je suis pas abasourdi. Je trouve que dans cette interview, il y a des bêtises incroyables. Par exemple, quand il s'attaque aux droits de l'homiste, c'est idiot et inutile. Et dans Valeurs Actuelles, c'est même justement contre-productif et néfaste. Donc, d'un autre côté, quand dans Valeurs Actuelles, il défend l'idée d'une immigration économique, quand dans Valeurs Actuelles, il dit « je ne ferai pas une loi contre l'islam », etc. C'est nécessaire, c'est un débat qu'il faut mener aussi dans Valeurs Actuelles. Donc je dis, il y a des choses qu'il dit qui m'ont choqué, il y a des choses qu'il dit qui m'ont plu, voilà comment j'évalue son interview dans Valeurs Actuelles.
C'est qu'un sondage, et les sondages valent ce qu'ils valent, et on est à 2 ans et demi de l'élection présidentielle, donc ça ne vaut que ce que ça vaut. Mais le sondage d'hier du journal du dimanche qui montre que si l'élection présidentielle avait lieu demain, Emmanuel Macron et Marine Le Pen seraient à touche-touche au premier tour et qu'Emmanuel Macron ne l'emporterait qu'à 55% contre 45% pour Marine Le Pen au second tour. On rappelle qu'en 2017, il avait gagné avec 66%, donc c'est 12 points de moins. Est-ce que ça ne vous pose pas la question ? Emmanuel Macron répète souvent qu'il est le barrage, le dernier barrage contre l'extrême droite, contre Marine Le Pen. Est-ce qu'il est vraiment le barrage contre le Rassemblement National ou est-ce qu'il en est le carburant ?
Je crois qu'une triangulation, s'il veut l'organiser comme ça, c'est lui ou Marine Le Pen, c'est faux. C'est pas juste et il se trompe. Je trouve que c'est nous ou Marine Le Pen. Nous, c'est vous, c'est nous. Nous, c'est les socialistes. Nous, c'est les écologistes. Nous, c'est les républicains. C'est-à-dire tous ceux qui ont des différences énormes en politique, mais qui, ensemble, sont de toute façon contre le projet de Marine Le Pen. La seule personne où je ne sais pas où elle est, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, ses électeurs le disent franchement. Et moi, je crois que ce qui est intéressant, c'est ne pas faire Macron ou Marine Le Pen, c'est nous ou Marine Le Pen. Parce que si Marine Le Pen gagne, c'est nous qui allons payer. C'est pas tellement lui, c'est nous. Et donc, moi je suis absolument contre, on verra qui est le meilleur après, dans 2 ans et demi, pour affronter Marine Le Pen. Mais je veux que face à Marine Le Pen, on ne regarde pas le match Macron-Marine Le Pen. Je veux que Yannick Jadot, je veux que Faure, je veux que tous ceux qui veulent s'engager en politique ou commenter la politique ne disent pas « ça m'est complètement égal que ça soit Marine Le Pen ou un autre ». Non, moi je suis contre Marine Le Pen avec tous les autres.
Denis est en ligne. Donnons la parole aux auditeurs de France Inter qui ont dû être bien réveillés par les premières minutes de cet entretien. Denis, bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour messieurs. Il est vrai que monsieur Comendy est toujours dans l'effectif depuis maintenant de nombreuses années. Mais ça c'est une observation. En matière de DRH, c'est une observation à nouveau. Monsieur Macron n'est pas très bon. Nommé Goulard comme commissaire européen et Nathalie Loiseau, franchement, il gouverne peut-être la France, mais en matière de DRH, il est vraiment nul. Mais bon, ça c'est pas ma question.
Alors allez-y, c'est ce que disent les commentateurs et vous avez raison.
Un fervent supporter de monsieur Macron. Mm-hmm. J'aimerais en fait connaître le positionnement de monsieur Conmati sur la politique écologique de notre président, sachant que celui-ci finalement fait le contraire de ce qu'il fait. C'est-à-dire,
non, je vais prendre
quelques exemples. Europa City est soutenue par l'État, la Montagne d'Or dont le projet n'est pas tout à fait enterré, la France est régulièrement épinglée sur la qualité de l'air, et enfin, il signe des traités internationaux à tour de bras. En matière écologique, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, et je ne comprends pas que M. Conmédi, ou si je comprends fort bien finalement, parce que M. Conmédi est un opportuniste depuis maintenant 60 ans, il écume les ondes.
Les ondes
aussi bien de nostalgie que de France Inter. Voilà. Je pense qu'il devrait commencer à cultiver son jardin et qu'il prenne définitivement sa retraite.
Voilà. Merci Denis. Yes. Je mets un point final à votre question, Denis, et je transmets l'ensemble à Daniel Cohn-Bendit qui va vous répondre.
Salut camarade. Ça fait 60 ans qu'on me traite de tous les noms, donc ça me dérange pas. Salut camarade Marchais. Comment vas-tu? Sur l'écologie, Macron peut mieux faire et doit mieux faire.
Mais il a été visité par l'importance du sujet écologiste.
Il a changé de nature. Je crois qu'il a compris et que maintenant, si on veut discuter réellement, et quand je vois par exemple les écologistes allemands, qui sont quand même dans le même groupe, où tous les écologistes en France disent voilà notre modèle. C'est l'influence des écologistes allemands. Quand je vois les coalitions des écologistes allemands avec la CDU et que l'on va avoir dans un an et demi un gouvernement fédéral avec les écologistes et la CDU et la droite, eh bien on verra que la mise en place d'une écologie politique sera extrêmement difficile et contradictoire parce que nos sociétés sont contradictoires. Donc oui, Macron ne va pas assez loin. Oui, je crois que relancer les EPR comme ils veulent faire, c'est une erreur fondamentale. Je suis pour Macron, mais ça ne va pas dire que je suis d'accord avec des tas de choses. Je dis, il faut se battre pour l'instant, à part Macron. Vous voulez quoi? Yannick Jadot ne sera pas président de la République. Mais moi, je suis pour qu'il y ait un mouvement écologiste.
Il le souhaite, Yannick Jadot, puisque vous parlez de lui.
Mais il a le droit de le souhaiter. C'est ce qui l'anime aujourd'hui. Les présidentielles l'animent. C'est son droit le plus.
Comment vous expliquez, Daniel Cohn-Bendit? Vous avez gagné, triomphé aux européennes en 2009, et ça n'a pas été confirmé ensuite dans les élections nationales. Là, ce qui se passe pour Yannick Jadot, il a fait un très bon score aux européennes, et déjà, les sondages sont en baisse, etc. Est-ce qu'il y a une malédiction d'Europe Écologie Les Verts qui n'arrive pas à transformer l'essai?
C'est pas une malédiction. C'est Europe Écologie a eu ceux qui ont inventé, je dirais pas qui, hein, le terme Europe Écologie. C'était génial.
Parlez de vous.
C'était génial parce que c'était l'écologie et l'Europe ensemble. Et donc aux élections européennes, ça fonctionne toujours. Et Yannick est un très bon porte-parole. Il a fait une très bonne campagne. Moi, qui l'avais critiqué quand on parlait personnellement sur la campagne, il a eu raison. Il a eu raison de la manière dont il s'est positionné.
Mais vous dites qu'il sera pas président.
Mais je dis qu'aujourd'hui, on a besoin aujourd'hui d'un mouvement écologiste très fort. Et que si Yannick Jadot arrive à faire 10, 11, il arrive à dépasser, à prendre ce qui reste de gauche chez Mélenchon et d'écologiste, de le prendre à l'écologie politique, eh bien c'est un bien formidable pour la France. Et après, on verra au présidentiel, on verra au deuxième tour. Mais je suis donc pour que Yannick réussisse. On a besoin d'un mouvement écologiste très fort, pas seulement aux européennes, en France.
Une question sur l'application de France Inter. Solène vous demande la chose suivante. François Ruffin réclame un front populaire écologique. Ne serait-ce pas la bonne solution pour une vraie transition, bien plus que la politique d'Emmanuel Macron? Point d'interrogation.
Écoutez, Daniel Cohn-Bendit. C'est ce que je viens de le dire. Un front écologiste plus fort, allant très bien, allant très loin, très bien. Mais franchement, entre nous, là, dans 2 ans, il y a les élections présidentielles. Est-ce que vous croyez que Ruffin fera campagne derrière Yannick Jadot comme candidat? Et vous croyez que Yannick Jadot va se mettre derrière Ruffin? Ou que Yannick Jadot va se mettre derrière Mélenchon?
Bah écoutez, on lui posera la question, il est notre invité dans 2 jours, François Ruffin.
Vous verrez, il vous dira, c'est pas le moment. Yannick Jadot dit aussi, oui, il faut faire un front, on va faire un front populaire, on va travailler ensemble. Et quand on lui demande, oui, mais pour les présidentielles, il dit, c'est pas le moment. On verra après. Mais si on pense un peu, évidemment qu'ils peuvent pas donner la réponse aujourd'hui, on verra après, c'est évident. C'est évident que Yannick Jadot sera candidat des écologistes et que si les autres se mettent pas derrière lui, eh bien ils feront une autre candidature.
On retourne au standard. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour à l'équipe de France Inter. Ma question est la suivante. Depuis quand Monsieur Cohn-Bendit est devenu le porte-parole du gouvernement Macron au niveau européen? Parce que quand on l'entend par rapport à son propre parti et qu'il est catégorique sur le fait que Monsieur Jadot ne sera jamais président, et son positionnement sur Macron, je pense que, est-ce qu'il brigue un poste en 2021, Monsieur Cohn-Bendit?
Merci Guillaume, merci pour cette question. Daniel Cohn-Bendit enfin, vous répond.
Enfin, il faut pas quand même être trop béni, oui. Moi, briguer un poste, enfin, il y a, je sais pas combien de temps, j'étais ici, on m'a demandé pourquoi t'as pas accepté d'être ministre. Pourquoi? Enfin, de me demander à moi de briguer un poste, c'est vraiment pas de problème. Je suis pas le porte-parole de Micron. Vous avez vu un porte-parole de quelqu'un qui fait autant de critiques comme j'en ai fait aujourd'hui? Vous avez vu ça? Non, mais il faut arrêter. Moi, je défends d'un côté Emmanuel Macron, d'un autre côté, je le critique. Je ne vois pas dans le paysage politique français quel rassemblement qui pourra éviter la catastrophe. Si demain, l'évolution, ce mouvement écologiste extraordinaire prend la place d'En Marche, ben évidemment que je le dirai et que je pourrai le rejoindre. Ce n'est pas du tout la question. Pour l'instant, je n'y crois pas. Mais je ne suis pas le pape. Moi, je peux me tromper. Mais simplement, aujourd'hui, arrêtez, quand on défend quelqu'un, de croire que je suis un compagnon de route. Je n'ai jamais été communiste.
Porte-parole, disait notre auditeur.
Mais je suis un porte-parole, c'est un compagnon de route. C'est quelqu'un
porte-parole.
Qui... Oui, mais bon. Non, je porte pas la parole. Parce que si vous portez la parole, vous ne faites pas de critiques. Vous avez déjà vu une porte-parole qui fasse des critiques?
Des nuances.
Gouvernement?
Des nuances.
Wow, qui?
Non, le porte-parole, il a raison.
Allez, on retourne au standard. On retourne au
commentateur.
On parle de quoi à ce moment-là? On parle de quoi qu'à ce moment-là? Qui est au standard? C'est Catherine. Bienvenue Catherine, bonjour.
Oui, bonjour. Je voulais poser à M. Cohn-Bendit une question à propos du voile. Lorsque cette femme a été interpellée par un député RN, je ne sais plus ce qu'il était, j'ai été fort surprise d'apprendre que cette femme voilée avait fait l'objet d'une altercation, porté plainte pour violence raciale. Et je ne vois pas en quoi cette altercation était raciale. En tant que femme, elle porte surtout atteinte à ma féminité. J'ai toujours l'impression que dans la rue, ces femmes me considèrent, moi qui n'en porte pas, comme impure, impudique. Et cela me gêne énormément dans ma féminité. Je suis contre ce communautarisme très insidieux. Et je refuse cette provocation à nos valeurs républicaines. Et j'ajouterais que ce débat est trop souvent porté par des hommes qui, là, franchement, ne comprennent rien à la sensibilité féminine.
Merci Catherine pour cette question. Je la transmets à Daniel Cohn-Bendit.
Alors le problème, c'est est-ce qu'en tant qu'homme, j'ai le droit de répondre?
Oui, allez-y.
C'est tout, parce que il fallait pas me demander, alors si c'est trop les hommes. Moi, je suis contre l'interdiction du foulard. Je suis absolument contre. Je crois que c'est stigmatiser l'islam. Il y a des tas de femmes qui pensent autrement, qui sont des femmes. Il y a des féministes musulmanes, par exemple Malala, qui a eu le prix Sakharov, qui a fait un des plus beaux discours sur l'émancipation des filles avec un foulard sur la tête. au Parlement européen. On en avait tous les larmes aux yeux. Donc je dis, il faut faire attention. Qu'il y ait un communautarisme agressif, qu'il y ait une partie d'une religion agressive, oui, il faut se battre contre, mais ce n'est pas en stigmatisant généralement toutes les femmes qui ont un foulard sur la tête. Maintenant, la femme, là, elle avait plus qu'un foulard à Besançon, etc. C'est un vrai débat. Mais je vous dis, faites attention. Il y a des tas de gens qui n'ont rien à voir avec la religion, des musulmans qui se sentent agressés par la manière dont vous menez ce débat en France. Faites attention. Ce n'est pas en agressant des tas de gens qui n'ont rien à voir avec la radicalité salafiste que vous allez gagner cette bataille nécessaire pour la laïcité.
Daniel Cohn-Bendit, merci d'avoir été au micro de France Inter ce matin.
En forme, parce que Francfort a gagné. Faut qu'on explique aux auditeurs. Francfort a battu 5-1 Munich. C'est ça qui, justifie les cris de ce matin.
Voilà. Ça va beaucoup mieux pour moi depuis samedi dernier.
Et ça s'entendait. Merci.